tous. Vous êtes vivants? Bon, manifestez-le alors. On est très heureux d'être dans la maison du Seigneur, hein, c'est vrai? Hein, on est venu pour l'adorer, le louer. Je voudrais encore vous rappeler ce verset qui m'a touché un jour et qui continue de travailler mon cœur, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Je bénirai l'Éternel en tout temps, ça veut dire en toutes circonstances, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit difficile ou facile, mais en toute chose, je veux dire merci Seigneur. Et je pense que vous êtes là aussi pour dire la même chose. Seigneur, je veux te louer en toutes circonstances, en tout temps. David savait louer son Dieu quand il était poursuivi, quand il était menacé de mort, il écrivait des psaumes. Lorsqu'il a péché et que Nathan l'a repris, le prophète, il a écrit un psaume, le psaume 51 que vous connaissez. David était reconnaissant et il dira « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Alors pour toutes les choses que vous avez reçues cette semaine, dites merci au Seigneur. Il n'y a pas personne qui ne peut pas dire merci ce matin, merci pour le souffle de vie. Voilà, Stéphane, il est là, Stéphane Hafner, je voudrais le voir. Où est-ce qu'il est? Voilà, tu es là. Oui, à côté. Je voudrais vraiment te remercier pour ce que tu as partagé il y a... Comment? Non, c'est Benjamin, pardon. Ben, oui. C'est toi, hein. Pour ce que tu as partagé tout à l'heure, parce que ça va vraiment dans le sens de ce que nous allons partager ensemble. Des clés pour bâtir des relations au sein du corps de Christ. Et nous voulons ne pas nous laisser mener par le bout du nez par l'adversaire, mais nous voulons lui dire, tu as été écrasé à la croix du calvaire, tu mords la poussière et tu vas continuer à mordre la poussière jusqu'à ce que tu sois jeté dans l'étang de soufre et de feu. Et nous voulons ensemble ce matin bénir le Seigneur. Vraiment, tu vas voir pourquoi ta prière a été inspirée, ton partage a été inspiré. C'est super ce que tu as fait. Je disais à Mathieu tout à l'heure, mais c'est pile dans ce que je voudrais partager avec les bien-aimés ce matin, avec cette église. Donc, je me réjouis de voir Davidé, toute sa famille. Il est là, Davidé. Hein. On se verra tout à l'heure, mais vraiment, notre joie de vous revoir, de revoir les Parisiens au milieu de nous, et puis les Strasbourgeois, enfin tout le monde. On est tellement heureux de voir aussi nos bien-aimés de Strasbourg. Ça faisait des années que je crois qu'on ne s'était pas revus, mais voilà, on est une famille, un corps vivant, et c'est un corps que le Seigneur veut visiter, veut bénir. Amen. On est très heureux de recevoir aussi notre ami qui nous vient des USA, pour cette maison de prière, pour l'attente de la rencontre, et sois le bienvenu. Welcome. In Jesus' name. Alors le thème que nous allons développer c'est, pour cette saison, c'est nous allons continuer une saison où nous allons bâtir ensemble, et je crois qu'en tant qu'Église, nous voulons devenir une véritable équipe. Une équipe, une communauté. On veut bâtir une équipe où nous voulons ensemble toucher le cœur du Père. Mais nous pensons aussi, vous avez vu le clip, et merci de l'avoir composé, je t'ai dit que c'était super, et vraiment, je renouvelle ce que je t'ai dit tout à l'heure, Déborah. On veut aussi toucher notre génération, on veut toucher la génération de nos enfants, et afin que, bien sûr, nous puissions développer ensemble le cœur du Père, la compassion qui est sur le cœur du Père. En tout cas, merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Et nous voulons être des Abraham, Isaac et Jacob ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Nous voulons bâtir une équipe dans cette église, mais nous voulons vraiment toucher le cœur de notre Père avec passion. Être des passionnés, des amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Et le lien, c'est lorsque nous sommes une équipe solidaire, quand l'amour est là. J'ai vu dernièrement sur Internet, je crois que c'est l'église qui se trouve à l'île de la Réunion, l'église Extravagance, qui a lancé cela. En tout cas, c'est son pasteur, Steve, qui est passé chez nous d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et qui disait ceci, c'est bien d'honorer, de développer la culture de l'honneur, mais le pas suivant, c'est de développer l'amour. Cet amour que nous recevons du Seigneur par le Saint-Esprit. Et j'aime ce verset qui dit, ces gens qui parlent, « Il nous a aimés le premier, en retour nous voulons l'aimer. » Amen. Il nous a aimés le premier, il t'a aimé le premier, alors en retour il attend de toi que tu l'aimes. Et cet amour est là dans nos cœurs, mais c'est tellement facile de devenir un lieu d'ouverture, un lieu d'accueil en tant qu'Église. Et quand nous nous aimons, eh bien nous sommes animés de la même passion, nous pouvons faire une différence dans la vie de ceux qui nous visitent, qui viennent au milieu de nous. Béni soit Dieu pour cela. Alors, on va partager ensemble quelques clés pour développer ici même, dans cette église locale et dans l'église à laquelle vous appartenez, des relations qui soient des relations saines. Pour quelles raisons choisissons-nous de faire de nos dimanches une priorité, mes amis? Parce que la priorité dans la semaine, c'est de se dire, mais tiens, dimanche arrive, je vais aller dans la maison du Seigneur. Même si je suis malade, j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que on ne peut plus se priver de la présence de quelqu'un qui nous a tellement aimés. Jésus nous a tellement aimés qu'on ne peut pas rester à la maison, peut-être regarder sur Internet un culte qui se trouve quelque part en France, mais nous sommes tellement bénis dans la présence même du Seigneur, mais nous sommes tellement bénis d'être ensemble, tous ensemble, sous son regard. Et j'aime beaucoup ce temps de partage de la Sainte-Seine où nous sommes entre amis, en famille. Et ça, c'est une marque de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en nous, mais qui se manifeste aussi au travers de chacun d'entre nous. Alors la raison, c'est que nous voulons vivre comme une équipe, comme une communauté solidaire, mais nous ne voulons pas que personne reste ou se sente seul au milieu de nous. Mais pour nous, ces rencontres sont plus que des réunions. Nous sommes un groupe de personnes qui allons partager notre vie pour apprendre à devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, moi, je veux continuer à apprendre, pas vous? Vous allez dire, mais tu as un certain âge maintenant, hein, ou un âge certain? Non, je ne me sens pas vieux, je me sens jeune à l'intérieur de mon corps. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que Jésus a-t-il fait pour former des disciples? Il n'aura pas dit, venez à la réunion le mardi soir ou le mercredi soir, et le samedi soir, et puis le dimanche, non? Mais il a pris un groupe de gens, des amis, il les a fait vivre ensemble pour qu'ils partagent ensemble une période de leur vie afin de les amener à devenir des disciples de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas développer cela si nous restons seuls dans notre coin. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je sais pas la peine que j'aille à l'église ou à la maison de Dieu, je préfère dire la maison de Dieu. Je reste chez moi, j'ai mon petit culte personnel. Vous savez, si on me coupe ce doigt, par exemple, mon corps va continuer à vivre. Mais mon doigt, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va pourrir. Si tu te coupes de ta relation avec Dieu, tu vas te dessécher. On a besoin de cette communion verticale avec Dieu, mais on a besoin aussi de cette communion horizontale. Vous savez, les cours par correspondance vont nous amener à connaître des choses sur Jésus. Oui, c'est vrai. Mais lorsque tu mélanges ta vie à celle des autres, alors là, tu deviens réellement un disciple de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'apprendre à vivre des choses ensemble, les uns avec les autres. Et ça, c'est le secret de la force de nos rencontres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous projetez d'aller quelque part avec des amis chrétiens de cette église même, vous faites une même voiture, un covoiturage par exemple, vous arrêtez sur une aire d'autoroute pour manger, vous assistez à cette conférence qui dure plusieurs jours, vous avez des repas en commun, mais quand vous revenez de ces journées, quand vous vous retrouvez dans cette maison de Dieu, comment est-ce que vous vous retrouvez? Vous êtes devenus des amis plus proches. Parce que vous vous êtes frottés les uns les autres, parce que vous avez passé du temps ensemble, et parce que vous avez goûté que la communion fraternelle, c'est tellement bon. C'est bon de vivre ensemble. C'est bon de mieux se connaître. Et j'ai remarqué une chose, que c'est quand je prenais avec moi des amis de notre église pour les former au niveau de la mission, on partait en Afrique, on partait dans des pays étrangers, quand ils revenaient de ces voyages avec moi, lorsqu'on se voyait, on n'était plus les mêmes. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait Étienne qui était au milieu de nous, il a fait plusieurs voyages en Afrique avec moi. Mais c'est là qu'il a appris à me connaître, c'est là après qu'il a approfondi cette communion avec moi, et c'est là qu'on est réellement devenus plus que des amis. Il est pratiquement comme un membre de ma famille, tellement nous sommes proches ensemble, tellement nous nous aimons. Ça c'est beau, mais ça se tisse, ça se fait parce que nous passons du temps ensemble. Alors une question pour nous, est-ce que Dieu est suffisant pour me combler? Alors bien sûr vous allez répondre oui. Et moi je vais te choquer, je vais te dire non. Parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. Je connais un homme qui était parfaitement dans la présence de Dieu, et Dieu lui parlait tous les jours. connaissez cet homme. Il vivait dans un environnement pur, donc un environnement qui n'était pas pollué. Il était réconcilié avec tous les animaux. Il vivait sans soucis financiers. Mais son esprit était comblé par la présence de Dieu qui venait lui parler tous les soirs. Vous vous rendez compte? Il avait des appels gratuits tous les soirs. Et nous, quand on téléphone, ça nous coûte, mais là, c'est Dieu qui appelait. C'est lui qui payait la communication. C'est lui qui venait vers... En fait, cet homme, vous avez reconnu, c'était Adam. Et Dieu lui dit, tout est très bon chez toi, Adam, mais il y a une chose qui n'est pas bonne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu est-il tout suffisant pour toi? Moi, je dirais, oui, il nous comble. Il nous remplit de sa présence. Et je bénis Dieu pour cette possibilité que nous avons de venir vers lui, de lui parler, de le prier, de le louer, de chanter la gloire de son nom. Mais il y a un autre axe que le Seigneur a mis en place, c'est l'axe horizontal, c'est les uns les autres, la communion fraternelle. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et ce n'est pas insulter Dieu que de dire « Dieu ne me suffit pas », c'est être d'accord avec lui qui dit « Quand bien même ma présence te remplirait, je t'ai créé relationnel pour que tu dépendes aussi de tes semblables. » Parce qu'il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et pour beaucoup, les gens appliquent ce texte à un mariage simplement. Ensuite, les gens se marient, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et au lieu que l'homme soit seul, tout seul, ils sont seuls à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Le mariage ne solutionne pas, il met en relief la façon où tu as appris ou non à être en relation avec les autres. Et cette chose n'était pas bonne en Éden, c'était la solitude d'Adam. C'est pourquoi la première dimension d'une vie réussie, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Aime ton prochain. Et Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alors, on peut se poser la question, comment reconnaître une église en bonne santé? Eh bien, c'est une église qui vit, qui va se développer dans l'amour de Dieu. Une église qui est comme une fiancée amoureuse, mais une église aussi qui est une famille chaleureuse. Alors, sans quoi nous avons beau chanter fort, prier fort, jeûner fort, jamais les choses de Dieu ne nous combleront, parce que c'est lui qui nous a créés pour être comblés, par qui? Par nos semblables. Ça veut dire, tu as besoin de moi, mais moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu, mais j'ai besoin aussi de ta présence. J'ai besoin de ton sourire, j'ai besoin de tes encouragements, j'ai besoin de sentir que tu as reconnu que j'avais une valeur devant Dieu, mais toi aussi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, et tu dois être reconnu comme tel. Nous ne pourrons pas remplacer cela par quoi que ce soit d'autre. Nous avons besoin de Dieu, mais nous avons besoin les uns des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, il faut qu'on le développe. Ce n'est pas chose facile. Ça va nous demander parfois de prendre des risques, mais ça vaut le coup parce que le résultat n'en sera que meilleur. C'est pourquoi nous voulons créer ces structures, pas pour passer un moment vide, ennuyeux, bien sûr, mais pour être en relation les uns avec les autres. Et j'espère qu'à la fin de ce culte, on ira voir non pas simplement nos amis, mais on ira voir aussi ceux que l'on connaît un peu moins dans l'Église. Ceux même peut-être avec qui on n'a jamais de relation. Simplement d'aller vers l'autre et de lui dire, tiens, je viens te saluer parce que je voudrais te connaître davantage. Je voudrais aller plus loin dans ma relation avec toi. Vous savez, devenir chrétien, c'est s'attacher à Dieu par le moyen de la foi, mais aussi c'est s'attacher les uns les autres par des relations. Écoutez ce que dit 2 Corinthiens 8:15, ça y est, le verset est tombé. On est vraiment biblique, on va pouvoir ouvrir notre Bible, qu'elle soit électronique ou en papier, et on va le projeter même sur l'écran. 2 Corinthiens 8:5, deuxième épître de Paul aux Corinthiens 8:5, où il est écrit, « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Ah, bon, c'est pas... Bon, faites-moi confiance, c'est dans la Bible ça. Hein. Donc, oubliez ça. Ah oui, c'est parce que c'est dit autrement. Hein. Bon, je vous dis ma version, je crois que c'est la version seconde, non révisée. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et Paul dira, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez, ce texte nous montre que c'est la volonté de Dieu que nous dépendions de lui et que nous dépendions de certaines personnes. Il est notre source, mais il choisit que cette source soit comblée en même temps par nos connexions avec certaines personnes. Il y a des personnes qui, par la volonté de Dieu, vont être ta plénitude, vont combler ce vide qui existe dans ton cœur. Et si tu invites ces personnes à être attachées à toi, et si tu t'attaches à ces personnes, tu vas être comblé par la volonté de Dieu. Mais si tu évites de telles personnes, jamais tu ne seras plein de ce que Dieu veut te donner. Or, c'est vrai que je peux dire, mon Dieu me remplit, il est suffisant pour moi, mais pour que ce soit pleinement suffisant, tu as besoin de l'autre. C'est pour ça que nous allons voir comment développer des relations au sein de l'Église, qui soient des relations saines. Alors, la première chose que je voudrais partager ce matin, on va voir selon le temps, mais on continuera ce thème ultérieurement de toute façon, hein, mais on est dedans. C'est la réciprocité, l'ouverture les uns aux autres. Nous avons été créés relationnel. Et dans le ciel, il y a cette relation. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, et ils sont connectés ensemble, mais Dieu nous a créés, n'est-ce pas, à son image. Il nous a fait pour être connectés aussi dans la réciprocité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont égaux dans le ciel, mais ils n'ont pas la même fonction. Mais ils sont égaux. Ici, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous différents et nous sommes complémentaires. Ça veut dire que si tu n'es pas là, il me manque quelque chose. Vous avez remarqué pendant cette période de vacances, il y a beaucoup de chaises qui sont vides, qui sont comblées par des visiteurs qui viennent de Paris ou de Strasbourg ou d'ailleurs. Mais vous avez remarqué ceci, c'est que quand les gens ne sont pas là, ils nous manquent. On remarque leur absence. Parce que d'habitude, un tel peut-être conduit la louange, un tel joue du piano. J'ai beaucoup aimé ce matin la conduite de la louange, encore une fois. Merci à tous les louangeurs qui sont venus pour nous aider à entrer dans la présence du Seigneur. Mais on peut remarquer que, voilà, cette personne, tous les dimanches, je la vois, mais sa chaise est vide pendant quelque temps. Elle nous manque. Pourquoi elle nous manque? Parce que Dieu a placé cette personne sur notre chemin. Elle m'apporte, mais moi aussi, je peux lui apporter quelque chose. Donc nous avons besoin de relations. Un médecin dit que c'est un fait médical que vous vivez plus longtemps et mieux avec des amis, quand vous avez des amis. Aujourd'hui, la communauté médicale est d'accord pour dire que la solitude affaiblit le système immunitaire. C'est pourquoi nous voyons des personnes de plus en plus nombreuses dans notre société. Elles se sentent seules, elles se sentent coupées des autres, elles souffrent d'isolement, et avec ça arrivent des troubles dans la santé, des troubles mentaux ou physiques, l'ennui, l'angoisse, le sentiment d'être inutile qui grandit dans le cœur. Et face à tout cela, nous sommes dans une société qui fait semblant d'avoir des relations. Vous avez remarqué ceci, c'est que il y a quelques années en arrière, vous alliez en vacances, et qu'est-ce que vous faisiez depuis votre lieu de vacances? Vous envoyiez des cartes postales. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de ça aux jeunes, c'est ringard. La carte postale, mais c'est ringard. On n'est plus à ce stade-là maintenant. On envoie des SMS. C'est tellement plus simple. Quand on se souhaite la bonne année, d'ailleurs, il y a une explosion des terminaux. Tellement les gens, au moment de minuit, ils envoient tous des SMS pour souhaiter la bonne année à leur carnet d'adresse. À tout leur carnet d'adresse. Même à ceux qu'ils ne rencontrent jamais, mais ils sont dans leur carnet d'adresse. Alors, autrefois, quand on se souhaitait la bonne année, on allait visiter le voisin, on apportait quelque chose, et puis on passait des moments ensemble, dans une bonne communion de cœur à cœur. Il y avait ce contact humain, mais aujourd'hui, avec ton appareil, tu envoies un SMS, bonne année, et le pire, c'est que tu envoies ça à tout ton carnet d'adresse, et il y a 300 personnes à la fois, tout le carnet en un clin d'œil, et tu te dis, au moins, et au moment où cette personne va appuyer sur son téléphone, elle va recevoir une pensée de moi, elle va se souvenir que j'existe, que je suis vivant. Et ce niveau de relation dans un monde de communication nous amène à trouver que plus nous sommes dans une société de communication, moins la communication devient facile. C'est une réalité. Jamais la solitude n'a été aussi grande. Et plus nous sommes une société de communication, moins la communication devient humaine. Vous savez, les amis Facebook, vous connaissez les amis Facebook ? Alors, tu as le choix. Tu peux taper accepter ou ignorer. Mais les gens te demandent, veux-tu devenir mon ami? Alors tu dis, oui, ok, j'accepte. Mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Est-ce que les gens, pour autant qu'ils sont tes amis, conversent avec toi, t'envoient des petits messages sympas, des vidéos? On le fait avec un groupe restreint, bien sûr, avec un petit cercle. Mais plus nous avons un niveau superficiel de relation, d'imitation de relation dans la communication, moins nous entrons réellement en relation. Nous avons besoin de vivre une vraie réciprocité. Et je n'ai rien contre Facebook, mais nous avons des amis dans ce monde de communication. Plus nous avons d'amis, plus nous avons l'illusion d'avoir des amis. Mais nous n'en avons pas beaucoup. Et jamais la technologie ne pourra remplacer la chaleur humaine, le coup de téléphone, la visite. Et le mot du Nouveau Testament, c'est presque le même qu'Alléluia, c'est Alléloïs, ça veut dire les uns les autres, 60 fois vous le trouvez dans le Nouveau Testament, et c'est employé 10 fois simplement pour le mot pasteur. La Bible ne dit pas, pasteur, priez pour moi, elle dit de prier les uns pour les autres. Elle ne dit pas, pasteur, c'est à toi que je vais confesser mes péchés, mais elle dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Pasteur, tu n'étais pas là pour me serrer la main, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Je ne veux pas dire pour autant que nous rejetons maintenant toutes les personnes qui sont mises à la tête de l'Église pour la conduire, mais pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, ces gens-là sont placés dans le corps de Christ pour l'édification du corps de Christ, pour la formation en vue de l'œuvre du ministère. Ils sont là pour te former, te pousser dans tes retranchements, pour faire de toi un homme, une femme de Dieu. Accueillons donc ces personnes avec joie, mais n'oublions pas ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes avant tout une famille, et nous sommes là pour exercer notre amour les uns envers les autres. Et les uns les autres, Dieu a prévu de nous guérir les uns par les autres, pour que les membres aient également soin les uns des autres. C'est pour cela que je voudrais vous présenter mes amis. J'aime fréquenter mes amis, parce que quand je les fréquente, ça m'élève au niveau de mes amis. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, j'espère que c'est la bonne, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mais elle dit aussi, cette Bible, « Il est bon pour des frères, il est doux. » Psaume 133, là c'est sûr, « Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, écoutez bien, et la vie pour l'éternité. Donc, la vie vient toujours par le mélange. Il y a un côté vampire en nous. Tu es quelqu'un, tu es avec quelqu'un, tu te nourris de ce qu'est la personne. Tu prends de ce qu'elle a, tu reçois d'elle, tu ponctionnes, tu es influencé par cette personne. Tu peux être influencé en mal, mais tu peux être aussi influencé en bien, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Également, dans cette dimension-là, nous avons besoin d'apprendre que la réciprocité, ce n'est pas quelque chose de hiérarchique. Ce n'est pas une œuvre d'intimidation qui est là. Je crois que dans nos moments de partage, tout le monde doit avoir les mêmes outils, parce que chacun doit avoir les mêmes chances d'être enrichissant pour les autres, la même information. Il y a un chef, puis autour, certains viennent écouter, non. Il faut qu'il y ait au milieu de nous une vraie réciprocité. Une relation basée sur l'intimidation n'est pas réciproque, mais si c'est très très paisible. Alors, une histoire simplement, l'histoire d'un couple qui fêtait ses 50 ans de mariage, donc les noces d'or, et tout le village parlait d'eux, parce qu'on disait dans ce village qu'ils n'avaient jamais entendu de dispute émanant de ce couple. Comment vous avez fait pour passer toute une vie sans vous disputer ? Quel est votre secret? Alors le mari a commencé à raconter son histoire. C'est grâce à notre voyage de noces, nous avons voulu faire le Grand Canyon et nous sommes montés chacun sur un âne. Nous avons commencé à avancer quand tout à coup, l'âne sur lequel était montée mon épouse a fléchi et il est tombé. Bien sûr, mon épouse est tombée avec lui. Alors elle l'a regardé dans les yeux, elle lui a dit « première fois ». Puis on a continué et puis l'âne, 500 mètres plus tard, a fléchi. Et mon épouse est tombée une nouvelle fois. Elle l'a regardé droit dans les yeux et elle lui a dit à cette âne, deuxième fois. Un kilomètre après, l'âne s'affale de nouveau. Alors tranquillement, cette jeune mariée a sorti son revolver et elle lui a mis une balle dans la tête et l'âne est mort. Alors je me suis fâché Et je lui ai dit, mais c'est inadmissible, cette pauvre bête, c'est pas comme ça qu'on doit, on doit la traiter, etc. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, première fois. Depuis, nous n'avons jamais eu de dispute à la maison. Ça, c'est basé sur l'intimidation, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas la relation saine dont je veux parler. C'est une relation plus réciproque, beaucoup plus libre, beaucoup plus vivante. Alors, c'est vrai que... Vous la raconterez, hein? Mais vous allez l'expérimenter aussi, n'est-ce pas? Messieurs, non, hein, quand même pas. Merci, ça c'est bien. Belle décision. Alors, on va le faire en pratique. Par exemple, on peut se demander l'un l'autre au niveau de l'équipe, c'est quoi la chose la plus drôle qui t'est arrivée en 2016-2017? On peut se poser quelques questions comme celle-ci. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier cette année? Si jamais Dieu voulait te recréer, qu'est-ce que tu voudrais qu'il refasse de la même façon en toi? Ce sont des gens, ce genre de questions qu'on peut se poser, s'aimer, c'est chercher à connaître l'autre, c'est chercher à lui faire du bien. Et je crois qu'on doit apprendre cela, mais ça ne peut se passer que quand on est ensemble, dans le même endroit, dans la même pièce, dans le même lieu. On a besoin, mes amis, de retrouver cette réciprocité pour que nous puissions partager nos cœurs, que nous puissions partager nos peines ensemble, mais aussi nos joies, pour que nous puissions être les uns pour les autres, des éléments de prière, des éléments de soutien, des éléments de fortification. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous ressentez cela, ce besoin dans votre cœur, d'aller plus loin dans votre relation avec votre frère et votre sœur dans la foi? En tout cas, dis-toi bien que tu vas passer l'éternité avec cette personne, donc... Commence un peu sur la terre, ça te fera du bien. Et en même temps, ça te préparera au grand voyage dans le ciel. Deuxième point, c'est la vulnérabilité. Et ça, c'est un point peut-être qui est délicat. On va le partager ensemble. On est en travail. On ne dit pas qu'on a déjà tous réussi cela. Mais c'est une clé qui nous permet d'ouvrir les cœurs. Et certains disent, et ça a été mon cas, s'ils découvrent mes faiblesses, ils ne vont plus m'aimer. Alors plutôt que de partager ton cœur, bah, tu vas le fermer pour ne pas que les gens puissent lire dans ton cœur et pour ne pas que tu te sentes rejeté. Et ça, c'est faux. S'ils découvrent tes faiblesses, justement, ils vont t'apprécier. Ils vont apprécier quoi? L'honnêteté de reconnaître ce que eux ont déjà remarqué sur toi. Vous savez que nos attitudes parlent beaucoup plus fort que nos paroles. On le dit en classe, quand on est des enseignants. Un enseignant... parfois pense que c'est ce qu'ils disent qui sort de sa bouche, qui va toucher le cœur des enfants dont il a la responsabilité. Mais ce qui touche un enfant, c'est le comportement de l'enseignant, c'est le comportement de l'adulte. Les enfants sont très observateurs, ils voient les moindres détails et ils enregistrent tout. Mais ils nous connaissent à force de nous voir, à force de nous entendre, à force de vivre avec nous. Alors, ils ne l'ont pas encore dit, les gens qui t'entourent, mais ils l'ont vu. C'est pourquoi... la vulnérabilité, c'est l'ouverture. Même quand on commence à montrer nos faiblesses, au lieu de repousser les gens, ça les attire. Nous gagnons l'écoute des autres lorsqu'ils savent que nous sommes réellement authentiques devant eux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce n'est pas parce que c'est un trésor dans des vases de terre que ce soit un prétexte pour pécher, mais c'est une raison suffisante de ne pas cacher qui nous sommes. La Bible dit que celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient grâce et miséricorde. C'est pourquoi nous apprenons à avoir cette ouverture, et c'est pour cela qu'au sein de notre équipe, notre Église, apprenons à admettre nos faiblesses, nos insuffisances avec H-U-M, qui vient de humilité, humour, humus, ça vient de la terre. Chaque fois que nous voulons montrer que nous sommes sans insuffisance, sans faille, parfait, bah le monde rigole, le monde ne nous croit pas, et le monde n'admet pas cela. Quand nous ne parlons que de nos exploits, de nos réussites, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer l'admiration, la compétition, ça va engendrer les jalousies, ça va engendrer les complexes. Mais nous sommes tous des gens faillibles et nous avons tous des défauts. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de défaut au milieu de nous? Et là, je vais l'adorer, l'admirer, je vais me prosterner, toucher le bord du vêtement de cette personne. Quelqu'un n'a pas de défaut parmi nous? Il y a quelqu'un, non? Tout le monde a... Moi, je n'ai pas de défaut. Non, pardon, j'en ai plein. Et on est tous faits du même bois. Mais quand nous parlons que de nos exploits, c'est la compétition qui arrive, ce sont les jalousies, ce sont les frustrations, ce sont les complexes. On a l'impression que ça, c'est un surhomme, mais si nous admettons nos faiblesses, ça va libérer la compassion, ça va libérer aussi l'acceptation. Je me souviens que j'étais très frileux par rapport à cela, parce que souvent, lorsque j'ouvrais mon cœur, quand j'essayais de l'ouvrir en tant que serviteur de Dieu, vous avez toujours une petite mémé dans un coin qui dit « Ah, le pasteur, il a dit ça, ah, il a fait ça !» Vous savez, c'est ces gens qui... On n'a pas besoin de ce genre de réaction. Mais on a besoin d'entendre des gens qui disent « Mais merci d'avoir été honnête, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai telle ou telle faiblesse dans ma vie. Et on a besoin de compassion, on a besoin d'être accepté. » À nous de décider si nous voulons impressionner les autres ou si nous voulons nous attacher les uns aux autres. Voilà ce que nous allons faire au sein de notre équipe. Nous allons parler sur le terrain de la vérité, non pas savoir « Oh, qu'est-ce que Paul a dit sur la vie de prière ?» Quand Luther priait, comment faisait-il? Non. Par exemple, c'est quand la dernière fois que tu as prié et que tu t'es endormi pendant ton culte personnel? C'est intéressant, ça. Quand est-ce que tu as eu ta Bible la semaine dernière et que tu n'as même pas pu la lire jusqu'au bout parce que tu étais trop fatigué et tu t'es endormi? Et puis, quand est-ce que tu t'es régalé en la lisant? Les bonnes choses, les moins bonnes, et de faire cela sur le terrain de la vie pratique. Parce que là, nous allons nous connecter, nous allons parler de choses sur lesquelles nous trébuchons ensemble, mais nous allons être vrais devant Dieu, mais vrais les uns envers les autres. Maggie avait deux grands frères, elle était la petite sœur, et quand Maggie était préadolescente, à l'âge de 11-12 ans, elle avait un petit carnet, et elle notait tout sur le petit carnet. Elle avait acheté un petit cadenas, et sur ce petit carnet, elle mettait tout ce qui passait sur son cœur. Et puis un jour, alors qu'elle marchait dans la maison, elle a entendu un de ses frères dire ceci, « Oh Maggie, elle trouve que Laurent a de jolis yeux bleus. » « Comment le sais-tu ? » ?»« Ben, je l'ai regardé dans ton carnet. » Alors Maggie était tellement fâchée, tellement blessée, qu'elle a pris le cadenas et elle a fermé son livre pour ne plus que personne ne vienne lire dedans. Elle a mis la clé autour de son cou, et désormais, elle n'allait plus donner les clés de son cœur à personne, en tout cas pas à ses frères qui se moqueraient, c'est vrai. Et parfois, mes amis, ouvrir son cœur, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Il faut vraiment être sage dans ce que nous faisons, dans les confidences. Aller voir des personnes qui, en fait, sont recommandables. Ce sont des gens qui nous aimeront, même s'ils ont entendu des choses difficiles, qui continueront à prier pour nous, qui continuera à exercer l'amour à notre égard. Alors on peut prendre des risques, soit nous allons prendre le risque de nous rendre vulnérables et que des gens pourraient se moquer, ne pas apprécier, soit nous allons prendre le risque de rester seuls et de jouer la comédie. C'est vrai que c'est un risque, mais les relations, mes amis, ça vaut la peine. Et j'ai remarqué que quand on arrivait à confier quelque chose à quelqu'un qui est devenu un ou une amie, la qualité de la relation, elle augmente. Parce qu'on sait que notre jardin a été comme observé par la personne qui est en face, mais on sait très bien qu'on ne sera pas jugé, mais bien au contraire, on sera aidé dans les conseils, dans la prière. Et c'est le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, ça veut dire ouvrez-vous les uns devant les autres. Il y a un risque, nous allons apprendre, mais c'est fragile le cœur humain, ce n'est pas une boîte de carton ou une boîte à conserve, c'est fragile le cœur, je mets cela en jeu. Donc dans notre équipe, nous allons apprendre à nous respecter les uns les autres, la compréhension, l'attention, tout ce qui est ne pas nous trahir, ne pas nous moquer, développer l'appréciation les uns les autres. Je préfère prendre le risque de cette relation plutôt que de m'enfermer dans ma solitude. Un dernier point, et après je vous laisse partir manger, c'est un dernier point pour aujourd'hui, c'est la vérité. La vérité. Ça met de la lumière dans les relations. Et ça allume les relations. C'est ce dont on a besoin. Dans Luc 12, verset 1, il nous est dit que les gens étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Ça veut dire la foule était immense, la foule était nombreuse. Et on pourrait se dire, tiens, le prédicateur, c'est Jésus aujourd'hui. C'est lui qui va prêcher. Donc, puisque la foule est nombreuse, Jésus, tu vas prendre un sujet qui va intéresser tout le monde, qui va susciter l'enthousiasme, qui va les interpeller. Profites-en, t'as un auditoire conséquent, vas-y, fonce, c'est ton opportunité. Et ce jour-là, ils avaient fait carton plein, la prairie était remplie de monde, les disciples ont dû se dire, là Jésus va leur sortir le truc le plus important. À mon avis, il va leur faire un tour de magie divine et leur montrer que c'est lui le Messie, hein, donc le grand prédicateur. Et il va les faire marcher sur les eaux, il va chasser la tempête, il va leur donner à manger, il va multiplier le pain. Et à chaque fois qu'il y aura un pas de fait, les paralytiques vont se lever, les aveugles vont voir. Là, il va faire quelque chose d'étonnant. Alors, il a l'attention de tout le pays. Il va leur faire un exposé théologique. Et voilà, et depuis la Genèse jusqu'à notre temps, tout le monde va être en pâmoison devant lui. Mais Jésus va dire ceci, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, le fils qui est l'hypocrisie. Mais non, dis-nous des choses importantes. Là, tu as loupé l'occasion, tout le monde est là. Tu manques une telle opportunité. Dis-nous la chose la plus importante que n'a jamais entendue cette foule. Mais Jésus dit, c'est parce que je n'ai jamais eu une telle foule que je dis la chose la plus importante. L'hypocrisie, mes amis, est en abomination devant Dieu. Il dira, Jésus, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Pas d'hypocrisie. Le mot hypocrisie vient du mot hypocristos, qui était un comédien masqué. Et un jour, l'apôtre Pierre a eu besoin que Paul lui enlève son masque. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes au courant que Pierre s'est fait reprendre vertement par Paul un jour? C'est raconté dans Galates 2, au verset 11 jusqu'au verset 14. Pierre était devenu une autorité dans Jérusalem, avec Jacques et Jean, qui étaient les colonnes dans l'église, Éphésiens 2:9. Et voilà que Pierre va voir à Antioche ce qui se passe. Et là, on lui concocte une omelette au bacon. Il mange, il trouve que c'est bon. Et puis, il goûte le jambon, il goûte la saucisse, et il trouve ça bon. Et puis, tout à coup, alors qu'il a la bouche pleine, on lui dit, « Hé, il y a Jacques qui arrive avec les frères. » Alors, il crache tout. Il va vite chercher de la menthe fraîche, parce que les petits bonbons à la menthe, à l'époque, ça n'existait pas. « Il faut que je change mon haleine, parce que je sens le bacon, la viande fumée. Hein. » Et là-dessus, Paul le regarde, lui, Pierre, attendant que Jacques s'approche, « J'ai trouvé que tu es allé fort avec le jambon. Hein. » Quel appétit! Je ne savais pas que tu aimais le bacon à ce point, Pierre. Mais Pierre ne savait plus où se mettre. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est paraître religieusement correct. Et ça, c'est le gros piège qui nous guette tout le temps. C'est de paraître religieusement correct. Et donc, Pierre a eu besoin ce jour-là de retirer son masque. Vous savez, dans le passé, on avait vitel, buvait, éliminé, on retirait le masque et on voyait la véritable figure. Mais je voudrais nous aider à réfléchir. Quand avez-vous eu besoin que la vérité vienne vous aider à ne pas vivre masqué? Quand avez-vous été tenté d'essayer de meilleure façon d'avoir la meilleure figure possible de ce que vous êtes réellement? Ce que Dieu aime, mes amis, c'est que les cœurs soient vrais. C'est que les cœurs soient authentiques. Dieu a aimé l'intégrité de Job, alors qu'il était entouré de trois religieusement corrects. Vous vous rappelez les trois amis qui lui faisaient la morale, qui lui faisaient la leçon, et qui ont été désapprouvés. Mais Pierre, il était même capable de se mettre en colère vis-à-vis du Seigneur en disant « Mais moi, je n'ai pas péché, et voilà ce qui m'arrive, j'ai un ulcère qui couvre tout mon corps, je me gratte avec des tessons de bouteille, j'en peux plus, c'est injuste !» Et non, il a exprimé cette colère. Mais à un moment donné, Dieu, dans son amour, lui a dit « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Et il a mis Job au milieu des animaux et lui a dit « Regarde. » Il l'a placé au milieu de la nature. « Regarde. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. » Et c'est comme cela que le Seigneur, dans son amour, a rectifié le tir. Job était un homme qui savait dire les choses, même qui savait crier sa colère Et il le faisait non pas pour blesser le Seigneur, mais il le faisait parce qu'il était vrai. Tellement vrai que lorsque ses enfants, quand ils étaient encore vivants, faisaient une petite fête le samedi soir, lui bâtissait comme un autel pour Dieu en disant « Je vais offrir un sacrifice des fois à Dieu, des fois que mes enfants aient péché. » Par crainte de cela, tellement il était honnête. Mes amis, nous sommes un corps, nous sommes le temple du Seigneur. Celui qui ment dans la relation humaine va laisser accès à qui ? Au père du mensonge, dans lequel il n'y a aucune vérité. Quand il parle de son propre fond, mais il ne dit que des mensonges. Et vous avez reconnu, c'est le diable. La vérité n'a pas besoin d'être violente, d'être cassante, d'être tranchante. Elle a juste besoin d'être exprimée avec grâce, avec amour, avec sensibilité, mais jamais cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte, dit la Bible, qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de recevoir des paroles d'affection, de soutien, d'admiration. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, la personne qui vous avait encouragé, tout à coup, elle vous envoie un message de haine, de rupture, « J'ai plus rien à faire avec toi ». Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Il s'est passé quoi dans ton film ? Tu as fumé hier pour qu'il t'arrive ce genre de réaction ? Je crois, comme le disait Marx, que la religion est l'opium du peuple, et certains, je crois, continuent à fumer quelques pétards de religiosité. Avoir des relations qui ne semblent pas venir de l'opium du peuple, parfois, simplement qu'il y a eu quelque chose de caché dans la relation. Mais un jour, ce qui a été caché vient à la lumière de Dieu. Et il vaut mieux une réprimande ouverte que quelque chose qui reste caché. Pour moi, un vrai ami a le degré de sécurité nécessaire pour qu'on construise une relation dans laquelle on peut se parler vrai. Alors, tu n'as pas besoin de te fâcher, on se parle vrai. C'est délicat parfois, mais on se parle vrai. Tu sais, je suis quelqu'un de sensible, de fragile. Tu me dis tout, mais tu le dis avec gentillesse, tu le dis avec grâce. Mais tu parles la vérité. Et c'est comme cela que la relation va grandir entre toi et cette personne. Mieux vaut une réprimande dans une relation franche que de laisser une chose cachée dans une amitié. Amen. Ce que Dieu aime, c'est la lumière. Vous vous rappelez dans Jean, on aime tous ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Allez-y, afin que... Allez-y. Que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est... Très bien. Vous lisez votre Bible de temps en temps, c'est bien. Mais avez-vous remarqué un peu plus loin ? Il est dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous avez remarqué cela ? Alors, le fruit de la lumière, c'est la vérité. Quand il y a des non-dits dans les secrets de famille... Tous les psychologues s'accordent pour dire que les secrets de famille vont générer des mystères et ça va générer une atmosphère de suspicion. On essaye de savoir ce qui est caché derrière, on veut lire entre les lignes, on essaye de deviner, etc. Il y a des sous-entendus malsains. Certains diront oui, mais, et les confidences, voilà. Alors, juste une petite histoire avant de terminer. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Patrick et... Bon, toute ressemblance avec des personnes existantes serait tout à fait fortuite. Hein. Donc, c'est pas vous, vous n'êtes pas visé dans cette histoire. Et donc, ce Patrick vient dire quelque chose sur un Patrice. Et il dit, je veux surtout pas que tu le dises, que tu lui dises. Mais tu sais, quand Patrice se met à danser, il danse à contre-temps. Et moi qui suis guitariste, ça me gêne. Alors, la personne qui entend ça lui dit, mais tu devrais lui dire. Va lui dire, ah non, je ne vais pas lui dire parce que si je lui dis, ça va le vexer, etc. Vous connaissez ce genre de situation dans les églises ? Moi, j'ai été confronté à cela bien des fois, vous savez. Des gens qui, pour ne pas ouvrir leur cœur envers le serviteur de Dieu, le cachent et vont dire à des ouailles, tu sais, il y a ceci, mais surtout ne le répète pas au pasteur. Hein. Vous savez, quand ça fait quand même le tour de l'église et un jour, on entend quand même ces choses-là. Hein. Et puis, voilà, on est dans le secret, mais vous savez, ce sont toujours les petits renards qui ravagent la vigne. Ce sont toujours les petites choses qui... Alors, va lui dire, non, il va se vexer. Mais moi, je voudrais te le dire, je suis une partie du problème, ni une partie du problème, ni la solution. Qu'est-ce que je dois faire avec toi, avec cela ? Eh bien, je vais aller le dire à Patrice. Ah non, tu ne vas pas faire ça, parce que ça sera trahison. Non, je ne te trahis pas, je vais te donner, et ça c'est les Morages qui faisaient ça, je vais te donner 15 jours ou 3 semaines. Si au bout de 15 jours et 3, ou 3 semaines, tu n'es pas allé voir ce frère pour le lui dire, ben moi je le lui dirai. Voilà le contrat sur lequel on va marcher. Alors, c'est vrai qu'en faisant cela, je garde la confidence, mais en même temps, je responsabilise la personne pour ne pas permettre à cette personne de mettre en place un nid de vipère. Un nid de vipère, je dis bien, qui se formera dans les relations humaines. Il faut qu'on mette dehors de toutes les églises en francophonie tous les nids de vipères qui se mettent en place, qui ont été entretenus, des confidences, des entretiens, les uns les autres, des petits secrets, des faux paradis, des choses comme « Ah bon, ça veut dire ça ?» On cherche entre les lignes, mais la vérité, c'est le domaine de la lumière. La Bible dit dans 1 Jean 1, 7, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Amen. C'est-à-dire, si nous marchons nous-mêmes dans la lumière, comme lui-même marche dans la lumière, notre Seigneur, alors là, mes amis, ensemble, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de toute faute, de toute mauvaise interprétation, de toute erreur, de tout jugement, de toute faiblesse que nous pourrions avoir parce que nous marchons dans la lumière. Église Josué, apprends à marcher dans la lumière. Église Josué, avance dans ces principes que le Seigneur met devant toi ce matin. Parce que si nous voulons être une véritable famille sur laquelle on puisse compter, bien il faut qu'on entre dans ces choses-là et qu'on ne se borne pas à écouter la parole en disant « Ah, c'était bien !» Surtout les histoires. Non, mais qu'on se dise, en ressortant de ce culte, « Je vais travailler ce point faible dans ma vie. » Ou « Je veux avancer en connaissant la parole de Dieu. » Parce que le Seigneur nous tient responsable de ce que nous entendons. Si nous l'avons entendu, mettons-le en pratique. J'aime beaucoup, c'est Jacques 1, 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Une dernière chose avant de partir, avant de conclure, c'est que je crois vraiment que nous sommes appelés à faire des pas devant le Seigneur. Et depuis que je vous connais un petit peu plus maintenant, j'ai remarqué qu'une chose, c'est que souvent, des messages sont donnés, mais il y a une frilosité de la part du peuple de Dieu à répondre à l'appel que Dieu lance. Et je crois qu'il faut qu'on gagne une victoire là-dessus. Souvent, lorsque un message est donné, il y a un appel qui suit le message, et on sent que ce qui n'arrange pas nos affaires, c'est le regard de l'autre. Si je réponds à l'appel, si je vais dans ce sens-là, peut-être qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Ça, il faut maintenant qu'on le règle devant le Seigneur. On est une famille. Et dans une famille, il n'y a pas que des êtres parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de perfectionnement. Mais nous avons besoin, quand le Saint-Esprit nous le dit, de répondre à l'appel que Dieu lance sur nos cœurs. Tu veux changer ? Réponds à l'appel de Dieu. Vous savez, lorsque nous nous sommes convertis, quand nous avons été touchés par le Saint-Esprit, frappés de péché, de justice, de jugement, lorsque on a senti dans notre cœur que si nous ne donnions pas notre vie au Seigneur, si nous ne nous repentions pas de nos péchés, alors nous serions perdus. Et qu'est-ce que nous avons fait ? L'appel a été lancé, nous avons levé la main et nous avons dit « Oui Seigneur, je suis un pécheur devant toi, pardonne mes péchés, je viens à toi tel que je suis. » Vous connaissez ce chant « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi », etc. On a pleuré sur nos péchés, on a répondu à l'appel. Et si aujourd'hui je vous posais la question, est-ce que mon frère, ma sœur, tu es sauvé ? Tiens, je vais vous poser la question, quels sont ceux qui sont sauvés ? Levez la main. Quels sont ceux qui croient que leur nom est inscrit dans le livre de vie ? N'ayez pas honte, voilà, c'est bon, amen. Pourquoi est-ce que tu peux lever ta main ? C'est parce qu'un jour tu as répondu à l'appel que Dieu te lançait. Et là, le fruit de cela, c'est que tu as obtenu simplement le pardon de Dieu pour tous tes péchés suite à ta repentance et de ce que tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que tu as dit oui au Seigneur. Mais il faut que réellement, quand Dieu te lance un appel, tu puisses dire « ça j'en ai besoin » et ne pas avoir honte de lever ta main, peut-être ne pas avoir honte de t'avancer sur le devant pour recevoir la prière ou à la fin de la réunion, mais de dire « Seigneur, j'ai besoin de cela. Alors simplement, je voudrais te placer devant Dieu ce matin. Je ne vais pas faire d'appel pour ne pas te mettre mal à l'aise juste à ce que je viens de te dire, mais simplement, réfléchis à ce que tu as entendu. Et s'il y a un point, deux points ou trois points qui ont touché ton cœur ce matin, tu remets cela devant le Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, ouais, je veux entrer dans cette nouvelle dimension, je veux travailler ce point. Mais j'attends ton secours, je veux que tu m'aides à être en relation avec mes frères, avec mes sœurs, à approfondir ces relations, à être vrai, à être sincère, à être honnête, à être ouvert, vulnérable. Mais Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grandir dans ma relation avec l'autre et permets que cette famille, l'Église Josué, devienne une famille accueillante, une famille qui reçoit, qui sait donner, qui sait se donner, afin que toute personne nouvelle qui entrera dans ce lieu puisse se sentir à la maison. Au nom de Jésus. Je peux vous dire avec Mathé, on vous connaît depuis des années, puisqu'on venait de temps en temps dans le passé ici, mais réellement vous avez fait des pas de géant dans le domaine de la communion fraternelle. Et quand on entre dans ce lieu, on se sent accueilli, on se sent aimé, on se sent porté par vous, par votre amour, par votre accueil. Mais je crois qu'on peut aller encore plus loin. On peut encore plus progresser, mes amis. Et il y a des pas et des victoires à remporter au nom de Jésus. Alors je vous laisse sur ces quelques pensées, mais je voudrais vous dire ce matin toute ma joie d'être avec vous. Avec Mathéo et moi, on peut dire que depuis qu'on vous connaît, on est tellement heureux d'être dans cette église et que rien ne nous ferait changer de direction. Nous sommes dans notre famille, nous vous avons adopté en tant que famille chrétienne et nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous vous bénissons. Vous recevez cette bénédiction ce matin, recevez notre cœur, mais recevez la bénédiction de celui qui est vivant. Jésus-Christ est au milieu de nous, il est vivant. Alors, quels que soient les travées qui sont formées ce matin, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que nos enfants soient bénis, que nos jeunes soient bénis. Je me réjouis pour le 10 septembre prochain de ce que nous allons faire un pas de foi avec eux. Mais je me réjouis pour le Collège Daniel, pour les écoles en France. Je me réjouis pour tout ce que le Seigneur est en train d'initier. Je me réjouis pour les travaux, pour la réponse aux demandes d'argent, à tout ce qui peut être... vous êtes sollicité pour ceci ou cela, mais cette Église deviendra un phare puissant dans cette région et sera un phare puissant pour la francophonie. Je le crois et j'en suis même assuré. Alors, ce matin, soyez bénis. Que Dieu bénisse sa parole, qu'elle descende dans vos cœurs, que les oiseaux du ciel ne viennent pas la retirer, que le peu de profondeur ne soit pas un obstacle, mais j'espère que cette parole, elle tombe dans la bonne terre, afin qu'un grain qui est tombé puisse emporter 60, un autre 30, un autre 100. Et moi, j'aime le 100, mais déjà, si on pouvait en avoir 30, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a multiplication déjà. 30, 60 et 100. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, merci pour ce peuple que tu aimes. Merci pour ces instants que nous avons passés dans ta maison ce matin. Seigneur, que ce que nous avons entendu de ta part puisse tomber dans la bonne terre. Nous interdisons aux oiseaux du ciel de venir voler les graines. Nous interdisons à celui qui est notre ennemi d'intervenir pour chasser tout ce qui a été planté, semé dans les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, que nos soucis n'étouffent pas, que tout ce qui est tracas n'étouffe pas ta parole, mais que nous puissions dire ensemble, malgré ce que nous traversons, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, j'invoque ton nom ce matin, pour que ta bénédiction descende sur ces bien-aimés qui ont écouté ta parole ce matin. Et je te prie afin que cette semaine soit une semaine où on va mettre à profit tout ce que nous avons pu entendre de ta part pendant cette matinée. Seigneur, merci pour le message de Benjamin tout à l'heure. Merci aussi pour la louange, pour tout ce que nous avons pu proclamer ensemble. Seigneur, pour tous tes bienfaits, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Janine.